demande si c'est juste du 20e et du 21e siècle, ça, ou si ça existait du temps de Jésus. Ou si une attitude négative, de désapprobation du gouvernement. On a vu, par exemple, dans l'Évangile de Luc, que l'on poursuit depuis plusieurs mois, voire quelques années. On arrive au chapitre 20, on approche de la fin. Mais dans l'Évangile de Luc, Jésus attirait des gens de toute classe sociale, particulièrement d'abord les gens du peuple, plutôt que des hautes sphères sociales et religieuses, mais il attirait des gens de toutes sortes. Même parmi ses disciples, parmi ses apôtres, on voit des pêcheurs, on voit un collecteur d'impôts, un officier du gouvernement. On voit un zélote, quelqu'un dont le désir était la séparation, était la libération des Juifs de l'oppression romaine. Et on voit maintenant dans Luc chapitre 20, quand on s'approche à la fin du ministère de Jésus, que les chefs religieux ont déjà pris la décision de mettre à mort Jésus. Ils ont déjà pris cette décision-là. On voyait 9:19, verset 47, et ils se mettent maintenant à se concerter pour trouver une méthode de piéger Jésus pour l'attraper, le prendre à son franc-parler à travers des questions-pièges. Et puis dans Luc chapitre 20, nous avons une série de ces questions-pièges-là. La semaine dernière, j'étais dans la joie des noces de Michel et de Gaëtan. On était pas présents, malheureusement, mais on avait tellement une belle journée. Bon, il y a deux semaines, dans Luc chapitre 20, on avait commencé une série de questions où on essayait de prendre Jésus au piège. On essayait de discréditer son autorité. Puis Jésus, il retourne le piège en parlant de l'autorité de Jean-Baptiste et son précurseur, puis les chefs religieux n'ont pas été capables de discréditer Jésus. Ce matin, on va regarder dans Luc chapitre 20, les versets 20 à 26. Et encore une fois, les chefs religieux vont essayer de coincer Jésus, mais là, ça va être entre le mécontentement du peuple face au gouvernement. Ah, et ça, c'était puissant dans le premier siècle aussi, comme je mentionnais. Les gens sont mécontents contre leur gouvernement, contre l'oppression romaine et leur obéissance au gouvernement. Ils vont essayer d'attraper Jésus dans ce dilemme. Et je trouve que la réponse de Jésus est encore tout à fait appropriée pour aujourd'hui, pour notre siècle. Des fois, on se pose la question, doit-on honorer un gouvernement qui ne défend pas les intérêts de notre foi? J'entends ça des fois. Est-ce que ça vaut la peine d'honorer un gouvernement qui ne défendrait pas nos convictions, nos intérêts? Nous qui sommes chrétiens, devons-nous soutenir un gouvernement qui passe des lois contre notre foi? Et ça l'arrivait au premier siècle, et ça l'arrive encore. Est-ce que honorer Dieu et honorer César, c'est compatible? Est-ce que Jésus enseigne quelque chose à ce sujet-là? Évidemment, ce sera le sujet de ce matin, où Jésus est confronté avec cette notion de relation avec le gouvernement et avec les impôts du gouvernement. Que Dieu nous dirige, en tout cas, dans la méditation de ce matin, qu'on trouve dans Luc chapitre 20. Et on va lire les versets 20 à 26. Vous avez trouvé Luc 20? Prions Dieu d'abord. Seigneur Dieu, encore une fois, nous avons besoin de tes yeux, de ton cœur, pour regarder le monde dans lequel tu nous as placés avec ta perspective. Alors Seigneur, encore ce matin, je veux juste te prier que, à travers l'enseignement de Jésus, tu nous amènes à voir notre monde comme toi tu le vois, que tu nous amènes à vivre comme toi tu t'attends que l'on vive. Ô Seigneur, dirige-nous, enseigne-nous, motive-nous, place-nous au défi, Seigneur, de te plaire, de te servir comme on a prié, comme on a chanté. Et on te prie au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 20, à partir du verset 20. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et tu enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? » Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. » De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse, ils gardèrent le silence. Seigneur Jésus est encore une fois dans le temple, et comme j'ai mentionné, on essaie de l'attraper avec des questions piégées. Et le souverain sacrificateur, les membres du souverain sacrificateur qui lui a demandé l'autorité, ben là, ils se sont retirés, puis au lieu de se présenter eux-mêmes, ils emploient des agents, des enquêteurs, des espions pour attraper Jésus. Et les chefs religieux, comme j'ai mentionné, s'étaient fait museler avec la question d'autorité. Alors maintenant, ils se tiennent à l'écart. Ils se mirent à observer Jésus, dit le verset 20. Ils se mirent à le regarder en retrait, à l'observer attentivement, à l'espionner, à le watcher comme un détective s'il n'allait pas prendre quelque chose de lui. Et non seulement il le regarde, il l'inspecte, mais il envoie des gens qui ont l'air de paraître juste des hypocrites. En réalité, le mot grec hypokrinomenos, il y a le mot hypocrite dedans. Alors, il envoie des hypocrites, des gens à double face, qui ont l'air de dire, « Hey Seigneur, t'es donc bon, tu parles bien, on est avec toi, t'es un homme là qui parle avec intégrité, t'es un homme qui a le franc-parler, t'es une personne qui dit la vérité selon Dieu, puis que tu ne te bordes pas des gens de leur classe sociale, tu dis ça direct. » Et t'essayes pas de plaire aux hommes, t'essayes de plaire à Dieu. On est content de toi. Et ça devait être faire plaisir au Seigneur dans un sens. Et les gens, en réalité, ils sont souvent contre lui. Puis là, ils disent toutes des belles choses qui sont vraies. Tu dis la vérité selon Dieu. Alors, il essaye de pomper Jésus. Et là, il envoie avec la question piège. Dis-nous donc, Jésus, est-ce que nous, on a le droit de donner ou de payer des impôts à César? Tu sais que nous, on est des religieux, on est des juifs. Est-ce que selon la loi juive, où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament, selon la loi juive, la permission de faire avancer la cause du pouvoir oppresseur? D'où est-ce qu'on trouve ça dans la loi juive de promouvoir un gouvernement oppresseur des juifs en leur payant des impôts sur notre territoire? Sur nos biens. On apprend que le Messie va venir. Tu es le Messie, je m'imagine. Est-ce que le Messie devrait nous soumettre au pouvoir romain? Ou est-ce qu'il devrait nous en libérer de ce pouvoir-là? Est-ce qu'on devrait supporter financièrement par nos impôts le peuple conquérant? Ou défendre la cause divine en nous séparant du joug de la dictature romaine? Ces pensées-là vont continuer du temps de Jésus, puis du temps après. Vous savez que depuis que César avait pris contrôle de la Palestine, il y avait toujours de la friction au sujet de la soumission au gouvernement chez les Juifs. Ça brassait souvent, de sorte que César il avait décidé de ne pas avoir un roi sur la Judée, mais d'avoir un gouverneur Pilate, qui va rendre des comptes directement à César. Pas juste un roi qui a une certaine liberté. Et en Judée, ça va encore brasser de sorte que César va envoyer son armée pour détruire le temple en l'an 70, parce qu'il y a toujours cette révolte potentielle et active, je dirais, chez les Juifs de se séparer du joug de la dictature romaine. Alors, on a-tu le droit ou on n'a pas le droit de payer des impôts selon la loi juive? Et c'est une question à fatale dans un sens. Une question que peu importe ce que tu réponds, t'es dans le trou. Tu vas être dans le trou parce que tu vas déplaire à des gens importants. Si tu dis oui aux impôts, ben là, Jésus, t'es un ami de César, puis t'es pas un ami de Dieu, t'es pas du côté d'Israël, son peuple, puis tous les gens qui t'applaudissent maintenant, ils vont te tourner le dos si tu te mets oui, tu mets du côté de César. Puis si tu dis non, on paye pas nos impôts, ben là, t'es en train d'exciter le peuple à la révolte et à la trahison, puis on va être capable de prendre tes paroles puis te livrer à Pilate pour te mettre à mort. Regardez le verset le verset 20 dans notre texte. C'était pour lui tendre des pièges et se saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Il aurait aimé qu'il puisse dire non, de sorte qu'on puisse le livrer. Et regardez un peu plus loin, chapitre 23, quand viendra le temps de se présenter devant Pilate. Quelle accusation qu'ils vont donner à Pilate? Jésus, il empêche les gens de payer les impôts. Chapitre 23, regardez le verset 2. Jésus était devant Pilate, puis ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César. » Et se disant lui-même, « Christ, roi. » Qu'est-ce qu'ils vont l'accuser plus tard? Ils vont l'accuser. Jésus, il a enseigné de ne pas payer le tribut à César. Est-ce que c'est le vrai? C'est pas ce qu'on va voir dans Luc chapitre 20. Hein? On a détourné certainement ces paroles. Avons-nous le droit ou non de donner, de payer les impôts à César? Pour les espions, la question était parfaite pour piéger Jésus. Les deux réponses étaient fatales pour Jésus. Et d'après ceux qui posaient la question, les deux réponses étaient absolument irréconciliables. Mais Jésus y répond. Il ne se laisse pas attraper. Il voit leur ruse. Il nous dit dans le verset... Verset 23. Jésus, apercevant leur ruse, nous est-il permis? Jésus voit la ruse. Il a bien compris. Et là, il va impliquer les gens dans la réponse. Comment il va les impliquer? Il va leur demander, as-tu une pièce de monnaie? As-tu un denier en ta possession? Montre-moi-en un. Le denier était la pièce de monnaie romaine qui équivalait au travail d'un soldat pendant une journée. Et le denier représentait au temps de Jésus l'impôt annuel d'une personne. Juste de sa personne, juste d'avoir le droit de marcher sur le territoire romain, ça coûtait un denier par année. Un peu sa part sociale à l'Empire romain, son identification à l'Empire. Alors, est-ce que ce denier-là, on devrait le donner aux Romains, notre part sociale, notre identification au royaume de Rome, en plus de cet impôt de base du denier sur juste être présent dans le royaume? Bien là, il y avait toutes sortes de taxes. Les taxes romaines sur les produits, les biens, le commerce, à peu près pour, on dit, le tiers du revenu des citoyens juifs était en taxes. Et en plus de l'impôt personnel, je dirais, de ce denier-là, de un jour de travail par année. Alors Jésus dit, montre-moi un denier. Et là, il pose la question, ben, de qui est l'effigie? De qui est quelle image que vous voyez là-dessus? Qu'est-ce qui est écrit sur cette pièce de monnaie-là? J'imagine, nous autres aussi, on en a de ces pièces-là, là, si on disait, de qui est l'effigie? Habituellement, on va voir la reine, ou en tout cas, sur nos pièces, on va voir des personnes impliquées dans le gouvernement. En tout cas, on verra pas monsieur, madame, tout le monde. On va voir des gens qui représentent l'autorité civile, le gouvernement. Nous, on a la reine. La reine, c'est ça. C'est pas mal de nos pièces. Et puis ici, mais en tout cas, on est encore sur nos pièces. Et ça l'indique quelque chose. Jésus dit, de qui est l'effigie? Qu'est-ce qui est écrit? Parce que voyez-vous, du temps de Jésus, c'était Tibère Auguste qui était là. C'est le César Tibère. Et sur un côté, on voyait son visage et ça disait Tibère César Auguste, fils du divin Auguste. Et de l'autre côté, on voyait Tibère assis en vêtements sacerdotaux et on voyait en dessous l'inscription Souverain Pontife. Ça vous dit quelque chose, Souverain Pontife? Ceux qui ont quelques années comme moi, là, c'est un nom qu'on employait souvent, ça. Le pape, c'était son titre. Il était souverain pontife, il était le souverain sacrificateur supérieur qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et pour Tibère, bien, il était assis en sacrificateur et ça disait qu'il était le souverain pontife. Jésus dit, montrez-moi ça, une pièce de monnaie. Et la monnaie, cette monnaie-là était une évidence d'une image taillée. Les Juifs aimaient ça, les images taillées? Non. Alors, juste la regarder, ça les opprimait. Un peu comme nous autres, des fois, on regarde la reine. Mais ça les opprimait. Et de l'autre côté, avoir souverain pontife, est-ce que ça l'opprimait un peu les Juifs? Évidemment, même la pièce était opprimante pour les Juifs. Et Jésus, il demande, t'as tout ça dans tes poches? Montrez-moi-en donc un de ce que vous payez au gouvernement. En réalité, les religieux juifs, quand il fallait payer la taxe du temple juif, on ne permettait pas aux citoyens romains de payer la taxe du temple juif avec des deniers, avec de la monnaie romaine. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'image, puis il y avait l'effigie des Romains dessus. Alors, on a inventé les banques, puis tu sais, les changeurs. Alors, quand on arrivait pour adorer au temple, il y avait toujours des changeurs, des gens qui échangeaient l'argent pour de l'argent juif, qui, elle, pouvait être utilisée dans le temple. Parce qu'on avait horreur d'utiliser ça, parce que quand j'utilise l'argent romain, bien, je suis en train de dire que je me soumets à l'autorité de ça. Je suis avec, j'utilise les bienfaits de ça. Alors Jésus dit, montrez-moi un denier. C'est qui la face qui est là-dessus? Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Et là, il va en tirer la conclusion tout à fait légitime. Si vous avez en votre possession une image taillée qui affirme la divinité de César puis de son sacerdoce, César y a placé son visage, sa signature sur la monnaie, parce qu'en réalité, c'est lui le propriétaire ultime de cette pièce-là. Alors Jésus est en train de montrer qu'il possède et il utilise la monnaie qui affirme l'autorité de César et de son gouvernement sur eux. Et qui montre ainsi que les Juifs sont soumis au pouvoir romain. Mais de la même manière que moi, quand je peux utiliser ça, je peux avoir une crème glacée, puis je peux avoir des toutes sortes de bons bénéfices à utiliser la monnaie de ce monde, les Juifs aussi savaient très bien qu'ils pouvaient utiliser la monnaie de leur monde, et les bénéfices qu'ils en tiraient de César, ils en tiraient eux autres même un bénéfice. Il y avait des bénéfices à avoir l'ordre public que César pourvoyait. Il y avait des bénéfices au gouvernement de César. Il y avait des bénéfices à l'armée pour protéger l'endroit. Il y avait des bénéfices à l'économie romaine. Même le temple dans lequel les Juifs adoraient avait été construit par Hérode, le roi qui était pleinement attaché à César. Par conséquent, il nous dit au verset 25, « Rendez donc! » Et il y a une emphase en grec sur ce donc-là. Par conséquent, comme conséquence logique, vous bénéficiez des bienfaits de César. Par conséquent, vous avez des devoirs et vous avez des obligations envers César. Alors, conséquence logique, rendez à César ce qui est à César. Rendez à César ce que vous devez à César. Dans le verset 22, ça paraît pas trop en français, mais le verset 22, il dit, « Nous est-il permis de payer, littéralement, de donner. » C'est le verbe didomi qui est là, « de donner. » Et là, Jésus, il dit, « Rendez à César. » Littéralement, « redonner à César. » Il emploie le même mot didomi de donner, mais apodidomi pour dire, « Retourne maintenant à César. » Tu as reçu de César, c'est tout à fait normal que tu retournes à César ce que tu lui dois. « Rendez. » Redonner à César les devoirs et les obligations dont vous avez reçu les bénéfices. Vous avez donc le devoir d'honorer César de vos biens en lui retournant les taxes et les impôts qu'il vous exige. En disant ça, il faut que tu te soumettes au gouvernement. Est-ce que ça faisait plaisir au peuple? Si je vous dis ça, ça vous fait-tu plaisir? Qu'il faut payer toutes nos taxes, toutes nos impôts. Ça, tout le monde a sauté de joie. Il a dit « Yes, sir! » Ça faisait assez longtemps que j'attendais de me faire dire ça, qu'il fallait payer nos taxes, nos impôts. Je suis content de le savoir. Là, j'ai pas vu de montée générale. Là. Pas plus au premier siècle. Il n'y en avait pas de ça. Pas plus au premier siècle. Mais là, il y a de l'amertume qui monte. Alors Jésus, ça y est, c'est un ami de César. C'est pas un ami de Dieu. Et Jésus ajoute, rendez à César, retournez à César ce qui appartient à César, mais aussi rendez à Dieu ce qui lui appartient. Il fait l'application tout à fait appropriée du côté juif, du côté religieux aussi. S'il avait placé l'emphase juste sur le côté de César, il aurait été perçu pour César puis contre Dieu. Mais Jésus est en train de dire le même principe qui s'applique qui s'applique au gouvernement du monde s'applique aussi au gouvernement de Dieu. Le même principe est là. Il s'applique, il concerne aussi les choses de Dieu. Rendez à Dieu ce qui lui appartient. Le fait de redonner à César ce qui lui appartient ne vous dégage pas, Jésus mentionne, de votre responsabilité de redonner aussi à Dieu ce qui lui appartient. Est-ce que vous bénéficiez aussi des bénédictions de Dieu? Est-ce que vous bénéficiez de la provision divine? Est-ce que vous bénéficiez de sa protection, de la vie, du mouvement, de l'être? Par conséquent, Jésus dit, vous devez aussi fidélité, amour, louange, gloire, obéissance, de la même manière pour Dieu. Voyez-vous, les Juifs d'autrefois, comme les chrétiens d'aujourd'hui, on participe tous à deux mondes, dont chaque monde comporte ses privilèges et ses responsabilités. Évidemment, dans ces deux mondes, le monde civil présent puis le royaume de Dieu, évidemment, dans ces deux mondes-là, notre redevabilité ultime est devant Dieu, comme citoyen du royaume de Dieu. Mais ça devrait, le fait que je suis un citoyen du royaume de Dieu, ça ne doit pas me soustraire de ma redevabilité comme citoyen du monde, soumis au gouvernement de ce monde. En réalité, donner au gouvernement ce qu'il exige, ça fait partie de nos responsabilités chrétiennes. Dieu va l'honorer. Alors Jésus, dans sa réponse, il dit, il faut donc rendre à César et à Dieu ce qui lui appartient. À chacun dans ses domaines, j'ai des responsabilités. Et bien entendu, les gens qui l'entendaient étaient attrapés. Ils ne pouvaient pas mettre en contradiction Dieu et César. Mais les Juifs d'aujourd'hui, comme les croyants d'aujourd'hui, les Juifs d'antan, comme les croyants d'aujourd'hui, doivent associer ces deux royaumes-là. Le royaume de Dieu et les royaumes de ce monde. Et on a des responsabilités à chacun. Alors, Jésus, il place les deux côtés. Et les gens restent bouche bée. Puis cette semaine, je me disais, oh ouais, que l'enseignement de Jésus est finalement très engageant. Parce qu'il m'amène à me poser deux questions fondamentales. Qu'est-ce que je dois au gouvernement civil? Et qu'est-ce que je dois à Dieu vraiment? Ce que je dois au gouvernement civil, rendez à César, ben nos gouvernements aujourd'hui ont bien compris ça, que les citoyens ont des responsabilités envers les gouvernements, puis nos gouvernements ont compris que pour bien fonctionner, il fallait pas qu'ils comptent sur la simple bonne volonté des contribuables. Je m'imagine que si le gouvernement décidait de placer à chaque coin de rue où il y a une lumière, vous êtes obligé d'arrêter un petit pot d'offrande là pour dire « Oh, regarde, on a placé ça, on a réparé le chemin, on a mis les... » Mettez donc 25 cents, si ça vous tente, là, tu sais, ça va nous aider à payer l'asphalte, puis les ponts, puis les réparer, puis les remettre. Puis vous allez au palais de justice, puis en entrant, vous avez un autre petit pot, puis qui dit « Mettez donc de l'argent là pour les services du gouvernement. » Le gouvernement, il a compris mieux que ça. Il a compris qu'il y a des devoirs envers les citoyens, puis on n'attendra pas que par contribution volontaire, ils puissent soutenir le gouvernement. Ils ne comptent pas sur la simple bonne volonté des contribuables pour garnir leur coffre. Ils s'empressent de prendre d'abord leur dû sur les salaires, vous le savez très bien, à travers vos impôts personnels. Et ils ramassent encore de l'argent sur les produits et les services, les diverses formes de taxes. Alors, du point de vue du gouvernement civil, on n'a pas à se questionner outre mesure si on a bien accompli nos responsabilités financières envers l'État. Parce que si vous manquez à vos devoirs d'État dans le gouvernement de ce monde, le gouvernement va rapidement mettre toute son organisation à profit pour vous rappeler puis vous exiger vos responsabilités. On n'a pas à se casser la tête. Est-ce que j'ai tout bien payé mes affaires? Le gouvernement va être capable de vous rappeler si vous êtes en retard et de vous reprendre le temps perdu si vous avez pris du retard sur vos obligations de ce monde. Regardez Romains, s'il vous plaît. Romains, chapitre 13. Oui, nous devons à nos gouvernements de payer nos impôts. Romains chapitre 13, verset 6, ça me semble assez évident. En réalité, Romains 13, les premiers versets sont clairs. Mais dans Romains 13, 6, il dit « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. » Les magistrats, il me dit, sont des serviteurs de Dieu, sont des hommes liturgiques que Dieu se sert pour appliquer à cette fonction. Verset 7. « Rendez à tous ce qui leur est dû. » Il y a un devoir. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Nous devons à la fois soumission et honneur à nos gouvernements comme ministres de Dieu pour établir l'ordre social, pour récompenser le bien, pour limiter le mal dans le monde. Nous devons nous soumettre et honorer nos gouvernements. Nous devons faire plus que ça. 1 Timothée, un peu plus loin, 1 Timothée chapitre 2, les deux premiers versets. Non seulement on doit soumission et honneur, mais Dieu nous dit qu'on doit prier pour nos gouvernements. On doit tenter de les influencer, nos gouvernements. On doit participer à la vie de nos gouvernements. 1 Timothée chapitre 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. On doit prier pour eux afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. On doit aussi prier et participer dans les choses gouvernementales afin de vivre paisiblement, en toute piété, en toute honnêteté. On doit agir dans notre monde, la Bible dit, comme sel, comme lumière, pour influencer nos gouvernements selon nos valeurs. Je n'ai pas eu besoin de vous convaincre de ça, de nos devoirs envers César, de nos devoirs envers le gouvernement civil. Mais Jésus, il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas juste dit « rendez à César ce qui est à César ». Il a dit aussi « rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Et ça m'amène à une autre question. Est-ce que j'ai des devoirs? Est-ce que j'ai des dettes? Est-ce que j'ai des obligations envers Dieu? Parce que le chrétien, lui, il a choisi de se placer sous une nouvelle administration. Il a choisi de se placer sous la responsabilité de Jésus comme sauveur et Jésus comme Seigneur. Est-ce que les devoirs du chrétien, est-ce qu'il y en a aussi d'ordre financier? Est-ce que nos offrandes à Dieu dans l'Église, est-ce qu'ils sont uniquement des contributions volontaires sans balise? Est-ce qu'on devrait offrir à Dieu simplement, comme la Bible dit en quelque part, ce que tu donnes, ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas? Là, est-ce que je dois juste arriver comme ça par hasard le dimanche, puis essayer de trouver ce que je trouve dans mes poches ce matin? Oh, je n'ai même pas le droit de regarder ce que ma main gauche, je n'ai pas le droit de savoir ce que ma... Alors, je ne sais pas, je prends dans mes poches, puis est-ce que c'est le style de devoir que Dieu m'appelle? Ou est-ce que Dieu s'attend du croyant que nous donnions à son œuvre de manière systématique, de manière mesurable? Qu'est-ce que Dieu veut dire lorsqu'il dit « donne à Dieu ce qui est à Dieu »,« rendez à Dieu » Ça me semble être un impératif, cette affaire-là. Et quand je parle de donner, que c'est au gouvernement des impôts, au royaume de Dieu, à l'Église des argents, il y a une question qui vous vient en tête, qui me vient en tête tout de suite quand je viens pour préparer ça, puis c'est, qu'est-ce qui va nous tirer là encore? Combien est-ce que je suis redevable? Dans l'Ancienne Alliance, c'était facile. Dans l'Ancienne Alliance, tout était clair, tout était compté, c'était la loi. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait la notion de dîme, de 10%. Bien que ce principe de la dîme précédait la loi, il était avec Abraham. Abraham, il a rencontré Melchizedek, qui est un représentant, une image, un symbole de Jésus-Christ. Et Melchizedek bénit Abraham. Puis parce que Melchizedek bénit Abraham, Abraham lui donne la dîme de tous ses biens. Melchizedek est une image de Jésus, puis on reçoit la bénédiction. Mais en tout cas, le principe de dîme précède la loi. Il est dans la loi, plus de 40 fois dans la Bible, le mot dîme appartient. Et là, et des fois, on se dit, bon, la dîme dans l'Ancien Testament, c'était 10%. Oui. La dîme religieuse, c'était 10%. Tournez avec moi dans Lévitique, chapitre 27. J'aimerais que vous le voyiez. Fait que comme ça, ça ne vient pas juste de moi. on peut mettre la pression au bon endroit quand vous le lisez vous-même. Lévitique, chapitre 27. Verset 30 à 32. Ça, c'était la loi. C'était clair dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de trouble dans le sens, c'était ça. Est-ce que ça donnait, est-ce que ça l'amenait les gens à donner généreusement de leur cœur? Je ne suis pas sûr. Mais au moins, les règles étaient claires. Lévitique, chapitre 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Si tu veux retarder, tu rajoutes 20%. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Ça, c'est clair. Ça, c'est la dîme religieuse. Tournez un petit peu plus loin dans 1 Samuel. Quand les Juifs ont commencé à être non seulement dirigés directement par Dieu puis par les sacrificateurs, ils ont voulu avoir, comme tout le monde, un gouvernement avec un roi, avec une autorité. Bien là, Dieu a établi un autre dîme qu'on appelle la dîme sociale. Il n'a pas arrêté la dîme religieuse, mais il a ajouté une dîme sociale. 1 Samuel, chapitre 8, j'avais dit ça. 1 Samuel 8, versets 11 à 18. 1 Samuel 8, verset 11. Voici ce qu'il dit, 1 Samuel 8. C'est un roi qui va être établi en Israël maintenant, comme les autres pays. Il dit au verset 11, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50, et les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. » Le roi, son droit, c'est de prendre des gens pour travailler comme fonctionnaires. Ça marche encore aujourd'hui, ça? Il y a des gens que le roi, que l'autorité paye pour être fonctionnaire, pour faire labourer les terres, ramasser les choses, tout ce que le roi a besoin de faire pour ramasser ses impôts, il s'engage des gens. Et ça, les civils vont devoir donner ça à leur roi, des fonctionnaires. Verset 14. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Le gouvernement va pouvoir prendre, arriver sur un terrain puis dire « Oh boy, je ferais bien un bel aéroport ici, on va tout exproprier ça puis ça appartient au gouvernement. » Fait que juste dans ce temps-là, il n'y a peut-être pas des aéroports, mais l'expropriation d'un gouvernement qui arrive et dit « Bon, ça ferait bien mon affaire, je le prends. » C'était vrai du temps de Samuel puis c'est encore vrai aujourd'hui. Verset 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même, vous serez ses esclaves. Et il va prendre aussi de vos biens, ça c'est ce qu'on appelle les impôts, les taxes. Le gouvernement, depuis dans ses droits, de prendre des fonctionnaires, de faire d'expropriation et de charger des impôts, c'était là. Ça, c'était la dîme, 10%. J'aimais bien le verset 18 quand j'ai lu ça cette semaine. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous serez choisi. J'ai dit, il y a des choses qui n'ont pas changé. Quand le gouvernement prend ses affaires, le peuple lui dit, « Ah, t'en prends trop, c'est dur, mais c'est pas nouveau. » Et alors, vous crierez contre votre roi que vous serez choisi. Mais l'Éternel ne changera pas les choses. Il ne vous exaucera pas. Il y avait une dîme religieuse, 10%. Il y avait une dîme sociale de 10%. En plus d'expropriation puis de fonctionnaires. Et là, on peut arriver dans Lévitique puis on peut voir toute la notion des sacrifices et des offrandes volontaires. Ça, c'était en plus des dîmes. C'était clair dans l'Ancien Testament. 10 pour Dieu, 10 pour le gouvernement, Puis quand tu as le cœur libre de donner des offrandes volontaires selon ton cœur, bien là, il y a toute la notion d'offrande volontaire puis de sacrifice. En réalité, on parle de plus de 10, de 30 % du revenu. Et là, vous dites comme moi, « Youpi! On est dans la Nouvelle Alliance! » on n'a pas ces critères-là tellement définis que l'on sait clairement si c'est bon, si c'est pas bon, si on est à l'intérieur ou si on est... Oh! On est dans la Nouvelle Alliance! Et ma question, est-ce que la Nouvelle Alliance efface tous mes devoirs financiers? Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance change finalement? La Nouvelle Alliance me dit encore que je suis maintenant un intendant, un gestionnaire des richesses que Dieu place à ma disposition. La Nouvelle Alliance me dit que l'utilisation de mes argents manifeste l'endroit où mon cœur est attaché. Luc chapitre 12, verset 34. Ouais, c'est vrai. La Nouvelle Alliance, il n'y a pas ces affaires-là tellement claires avec des chiffres précis, mais est-ce que les principes ont changé? Est-ce que ça efface nos devoirs? Tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Ça nous parle des offrandes. Volontaires, bien entendu. Parce que c'est ça qui caractérise la Nouvelle Alliance. La loi, ça teurt le bras. Tu n'as pas le choix, tu le fais parce que ça teurt le bras, ça fait mal. La grâce, ça ne change pas les responsabilités, mais ça dit, Dieu a tant aimé que je m'attends de la gratitude de ta part, que tu le manifestes librement. C'est dangereux pour Dieu, ça, de ne plus être capable, de choisir de ne plus tordre le bras des gens. Est-ce que ça change les principes? Non, ça change juste l'attitude, avec la manière où je fais les mêmes choses. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Il y a le mot « comme je l'ai ordonné ». Ordonné, ça veut dire libre. C'est un choix. Ah non, ça dit ordonné. Hein? Ça semble être un devoir si c'est ordonné. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, alors quelques-uns d'entre vous, lorsque ça vous tente, c'est ça que ça mentionne? Ça dit qui en réalité? Chacun. OK, ça me touche moi aussi. C'est pour tous. Le premier jour de la semaine. Ah, ça tombe bien, c'est aujourd'hui, nous, qu'on fait nos offrandes. On tombe dans le bon jour. Mais ça me parle de manière systématique. Le premier jour de la semaine. C'est systématiquement, ça revient toutes les semaines, ça. Mettre à part, c'est lui ce qu'il pourra. Et mettre à part, il va juste trouver ce qu'il y a dans ses poches. Ou de façon intentionnelle, il va prendre un morceau, puis il va le mettre à part. Y a-tu dit le chiffre? Non. Mais il a dit, chez lui, il va prendre un morceau, il va le mettre à part. Ça va être intentionnel. Et il va mettre à part, qu'est-ce qu'il va mettre à part? Ce qu'il pourra. Ce qu'il va être capable de faire. Ce qui va être sacrificiel. Il va mettre à part qu'est-ce qu'il peut, ça va être un sacrifice de sa part. Ça va être sacrificiel. Et ça va être aussi selon sa prospérité. La prospérité, ça parle d'une dimension proportionnelle. Est-ce que les principes ont changé? Pas vraiment. C'est juste l'application. Est-ce que c'est la loi où Dieu me tord le bras et dit ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça? Ou dans la Nouvelle Alliance, les principes n'ont pas changé, mais on dit, regarde, tu es un gestionnaire. Donne à Dieu une part de ce que lui a déjà placé en toi. Parce que maintenant, comme chrétien, tu es devenu le reflet de sa personne. Tu es l'image de Dieu. Toi, maintenant, tu portes l'effigie du Dieu vivant. Puis ta vie doit montrer aux autres comme une lettre vivante qui manifeste la grâce de Dieu, la générosité divine. Rendre à Dieu ce qui lui appartient, ça continue d'être un enseignement de Jésus. Et ça continue d'être un enseignement de Jésus qui est très engageant sur notre responsabilité de chaque croyant. Mais voyez-vous, dans la Nouvelle Alliance, on parle d'un Dieu de grâce qui laisse la place à la liberté humaine sans la forcer. C'est merveilleux, ça. Ça me fait penser comme David prêchait pour Michel, notre fille, samedi dernier à son mariage, de Jésus qui met le comble à son amour. Il nous aime Et il met le comble à son amour en étant serviteur, puis il nous dit après, faites la même chose entre vous autres. Est-ce qu'il me force? Est-ce qu'il me tord le bras? C'est comme ça que vous allez faire. Puis toutes les semaines, j'allais faire une action d'humilité, de service envers les gens parce que je l'ai fait. Non! Dieu met le comble à son amour, il nous le donne, il nous le présente, puis il dit, reflète-moi maintenant dans ta vie. Sans que ça soit toute une liste de lois de fais ci, fais pas ça. Dans la Nouvelle Alliance, on voit un Dieu qui prend le risque d'aimer plus, sans la garantie d'être aimé mieux. Ça, c'est le Dieu du Nouvelle Alliance. Je t'aime plus, j'envoie mon Fils, comme on a vu juste avant dans Luc chapitre 20. Ils auront du respect pour mon Fils. Dieu, je vais le donner plus encore, en espérant que volontairement, il me redonne les choses que je mets à leur disposition. Ça, c'est la Nouvelle Alliance. Mes principes n'ont pas changé. C'est l'attitude avec laquelle je vais le donner maintenant qui va faire toute la différence. Oh, qu'on est appelé ce matin encore à dire merci au Seigneur pour tous les bienfaits qui proviennent de lui. Tant dans le monde civil, dans les institutions sociales établies, que dans la dimension spirituelle de sa présence, de ses bienfaits, de son salut. On a besoin de dire merci à Dieu pour ce que tu nous pourvois dans nos gouvernements. Merci à Dieu dans ce que tu nous donnes aussi pour notre foi. Et Seigneur, apprends-nous à bien équilibrer maintenant nos privilèges et nos devoirs dans chacun des domaines de nos vies. Et puis qu'à travers notre conduite, qu'à travers nos engagements, Dieu puisse être honoré. Et puisse les gens constater à travers nos vies que nous sommes cette image de Dieu. Nous sommes cette lettre vivante, cette inscription de Dieu qui manifeste le caractère de Dieu, de gratitude, de générosité. Oh, ce que le Seigneur me demande, c'est simple. Mon Fils, donne-moi ton cœur. Que le Seigneur puisse prendre nos cœurs, les rendre assoiffés de lui, assoiffés de ses principes. Que Dieu nous donne de répondre à la réponse de Jésus. Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu aussi ce qui lui appartient. Parce qu'il vous en a tellement donné. Il s'attend maintenant à ce que tu réinvestisses pour l'avancement du royaume de Dieu. Ô Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Et merci Seigneur pour le risque dans un sens que tu prends à nous donner toutes choses sans nous forcer de répondre par l'obéissance, mais d'attendre que nous vous désirions te refléter dans ton caractère, que nous désirions te refléter dans ta générosité, que nous désirions librement t'aimer en retour à travers l'obéissance à tes principes. Oh Seigneur, merci pour la Nouvelle Alliance. Merci que tu prends le risque de nous aimer plus sans garantie que nous t'aimions mieux. Seigneur, donne-nous de mieux t'aimer, de mieux répondre à ta grâce à notre égard. Et on te prie ces choses pour ta gloire, pour ton bénéfice, Seigneur. Quand nous te servons, nous devenons de plus en plus épanouis. Notre communion avec toi devient plus intime. Et Seigneur, nous bénéficions de ton amour, de ta grâce, de tes bienfaits. Nous en réalisons davantage les fruits. Merci Seigneur pour ton amour, au nom de Jésus. Amen.